en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Doyen. Votre illustre prédécesseur, Alexis de Tocqueville, parlant de la Cour suprême des États-Unis dans sa démocratie en Amérique, s'émerveille. Lorsque, dit-il, l'huissier, s'avançant sur les degrés du tribunal, vient à prononcer ce peu de mots, l'État de New York contre celui de l'Ohio, on sent qu'on n'est point là dans l'enceinte d'une cour de justice ordinaire. Que dirait-il si, sortant de sa tombe dans le cimetière de Cannes et passant par Luxembourg, il entendait le greffier de la Cour de justice de l'Union européenne annoncer Commission contre Italie, Hongrie contre Slovaquie ou Parlement et Conseil contre Commission. Nous ne sommes pas à Luxembourg dans l'enceinte d'une cour de justice ordinaire. Nul doute que la Cour de justice a joué et continue de jouer un rôle majeur dans le fonctionnement et le développement de l'Union européenne. Nul doute que ces arrêts ont conduit à des évolutions majeures dans le droit des États membres. Au fil des années, ceux-ci ont dû changer ou au moins adapter des pans entiers de leur législation au point qu'on a pu parler de gouvernement des juges. Ces changements ont toutefois été assez bien acceptés parce qu'ils résultent avant tout, et il faut prendre garde à ne jamais l'oublier, du mouvement induit par les traités eux-mêmes, dont la Cour de justice n'est après tout que l'interprète, et dont l'orientation est claire, celle des traités. Création d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples d'Europe, d'un marché unique, sans frontières intérieures, d'un espace de liberté tant politique qu'économique. À cet égard, grande est la différence avec l'autre Cour européenne, celle des droits de l'homme, qui ne se fonde pas, pour rendre ses arrêts, sur une constitution et sur une législation aussi développée que ne le sont les traités et le droit dérivé. Grande est aussi la différence avec d'autres cours, tant nationales qu'internationales, parce que la Cour de justice est sans doute le tribunal le plus puissant du monde, puisqu'elle peut condamner les États membres à des astreintes et à des amendes. 50 000 euros par jour d'astreinte contre l'Espagne, par jour, pour ne pas avoir récupéré des aides illégales, plus de 57 millions d'astreintes par période de 6 mois et 20 millions d'amendes à la charge de la France pour ne pas avoir suffisamment poursuivi les infractions en matière de pêche. Qu'est donc cette cour si particulière ? C'est un vaste sujet. Votre académie, Monsieur le Président, comprend 6 sections. Je vais me placer du point de vue de chacune d'entre elles. Histoire et géographie. Les débuts sont modestes. C'est dans la salle des mariages de l'hôtel de ville de Luxembourg que le président Pilotti et les 6 autres juges de la Cour de justice de la CECA, au nombre desquels Jacques Rueff, ainsi que l'avocat général Maurice Lagrange, un membre du Conseil d'État français, ont prêté serment le 4 décembre 1952. La cour a été logée dans ce qui allait devenir plus tard la Villa Vauban, qui est aujourd'hui un musée de Luxembourg, mais les audiences se sont tenues au cercle municipal, où pour le besoin, on installait une estrade. Et c'est même dans ce même cercle municipal que les membres de la nouvelle Cour de justice des communautés européennes ont prêté serment le 7 octobre 1959. Aujourd'hui, la Cour siège sur le plateau du Kirchberg, dans des bâtiments dont la configuration actuelle est due à un architecte français, Dominique Perrault. 200 000 mètres carrés abritent plus de 2 000 agents. Le président Robert Lecour a écrit qu'à son arrivée en 1962, la Cour était assez modérément occupée par quelques affaires de ferraille ou de fonction publique. Aujourd'hui, la Cour dans son ensemble, et je reviendrai sur ce point dans un instant, juge près de 1 800 affaires par an. Son budget est de plus de 350 millions d'euros. Elle accueille près de 20 000 visiteurs chaque année. Ces modalités de fonctionnement, très continentales, sont telles qu'elle est restée elle-même à travers les élargissements successifs de l'Europe communautaire. Elle a aussi absorbé l'extension des compétences de l'Union. Pendant longtemps préposée au jugement de questions essentiellement économiques, elle touche aujourd'hui à toutes les matières de la vie sociale. Plaçons-nous maintenant du point de vue de la morale et de la sociologie. Qui sont les juges de l'Europe communautaire ? La Cour porte mal son nom. Le traité de Lisbonne dit curieusement ceci : la Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice. Ça, c'est l'allégorie communautaire. En réalité, la structure de la Cour a considérablement évolué. On lui a adjoint, en 1988, un tribunal. Puis, en 2005, un tribunal de la fonction publique. Mais cette dernière innovation aura été de courte durée parce que ce dernier tribunal va être supprimé au bénéfice d'un considérable renforcement du tribunal de l'Union européenne qui va passer de 28 à 56 membres. Aujourd'hui donc, à l'heure actuelle, l'institution Cour de justice de l'Union européenne comprend trois juridictions, dont la Cour de justice proprement dite, celle à laquelle j'appartiens, et d'ici quelques mois, elle n'en comprendra de nouveau plus que deux, celle à laquelle j'appartiens, la Cour de justice, et le tribunal, qui peut être considéré comme un tribunal général, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. La Cour de justice a été saisie l'année dernière de 713 affaires, le tribunal en a reçu 831, le tribunal de la fonction publique un peu moins de 200. Le contentieux communautaire dans son ensemble, aujourd'hui, c'est un petit peu moins de 2000 affaires chaque année. La Cour de justice compte 28 juges, un par État, et 11 avocats généraux qui sont très semblables aux commissaires du gouvernement qu'on appelle aujourd'hui le rapporteur public devant la juridiction administrative française. Le tribunal de l'Union européenne, lui, comprend 28 juges, bientôt il en aura 56, et le tribunal de la fonction publique en comprend 7. Les membres de la Cour et ceux du tribunal sont proposés par les États et nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres. Le traité de Lisbonne a été un tournant majeur pour ce qui concerne les nominations à la Cour et au tribunal. En effet, un comité de 7 membres a été créé afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général, et cela tant pour la Cour donc que pour le tribunal. Ce comité est actuellement présidé par le vice-président du Conseil d'État français, M. Sauvé, et il compte un seul ancien membre de la Cour de justice. Les autres membres sont des membres ou anciens membres de cours constitutionnelles ou supérieures des États membres. Et d'ailleurs, le président du Bundesverfassungsgericht, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle allemande, vient d'y être nommé. Le comité a déjà donné plusieurs avis négatifs. Les États l'ont suivi. La tradition s'est d'ores et déjà installée qu'on ne passe pas outre un avis du comité. Le comité a donné un contenu plus précis aux critères de nomination prévus par le traité. Le président de la Cour est élu par les juges. La Cour siège en grande chambre de 15 membres, ou bien en chambre à 5 juges, ou bien encore en chambre à 3 juges. Elle siège exceptionnellement en formation plénière et donc avec ses 28 juges. L'Institut ne peut qu'être sensible à la place du français à la Cour de justice. La Cour est certes une institution multilingue. Cela veut dire que les audiences ont lieu dans les 24 langues de l'Union, ce qui est un élément essentiel de la démocratie européenne. Et donc on traduit les interventions orales et on traduit les pièces vers le français. Mais la Cour délibère en français, elle délibère en français sur ce qu'on appelle un projet de motif, c'est-à-dire un projet d'arrêt rédigé en français, et par commodité, le français est devenu, au fil des années, la langue de travail de la Cour. La Cour a complètement refondu son règlement de procédure il y a 3 ans, et les progrès de ce qu'on appelle l'espace de liberté de sécurité et de justice a rendu nécessaire la création d'une procédure préjudicielle d'urgence, par exemple lorsque une personne est détenue ou dans le cas de litiges familiaux, et ces affaires sont jugées dans un délai de quelques semaines. Alors les autres affaires, ce qu'on pourrait appeler les affaires normales, sont jugées dans des délais très raisonnables pour une juridiction de ce type, puisqu'il faut environ 15 mois pour juger une question préjudicielle, 17 pour les recours directs et 14 pour les pourvois qui peuvent être formés devant la Cour contre les arrêts rendus par le tribunal. Fondamentalement, la Cour de justice est une juridiction continentale. Sa procédure est proche de ce que nous connaissons dans la juridiction administrative française, ce qui n'est pas étonnant, puisque la juridiction administrative française en a inspiré bien des traits, et notamment la fonction d'avocat général. Regardons maintenant du côté de la législation, du droit public et de la jurisprudence. Les fonctions de la Cour, ses tâches, n'ont pas changé. Elles sont, depuis l'origine, au nombre de 3. D'abord, assurer le respect de la légalité par les institutions de l'Union. Ensuite, assurer le respect par les États membres de leurs obligations communautaires. Et enfin, assurer l'unité d'application du droit de l'Union européenne. Cette dernière tâche, assurer l'unité d'application, qui est peut-être la première par ordre d'importance, représente aujourd'hui à peu près les 2/3 des affaires. Elle est assurée par la voie de ce qu'on appelle les questions préjudicielles. Ce mécanisme, imaginé dès le traité de la Communauté européenne du charbon de l'acier, est génial dans sa simplicité. Lorsqu'une question d'interprétation ou de légalité du droit de l'Union se pose devant une juridiction nationale, cette juridiction nationale renvoie la question à la Cour et cette dernière se prononce avec l'autorité de la chose jugée. Les grands arrêts du droit communautaire ont été rendus à l'occasion de questions préjudicielles. L'arrêt van Gendt-Loos en 1963, par lequel a été consacré l'effet direct du droit communautaire. En 1964, l'arrêt Constat contre Enel, par lequel la Cour a reconnu la primauté du droit communautaire sur celui des États membres. L'arrêt de février 1979 des Cassis de Dijon, auquel le professeur Poujade ne sera pas insensible, qui a posé les principes de la reconnaissance mutuelle. La physionomie du contentieux communautaire a depuis beaucoup évolué. Le temps est loin où l'essentiel des affaires portait sur les libertés fondamentales du marché commun. Aujourd'hui, la matière première qui est la nôtre est une très abondante législation, de plus en plus technique. Nous nous trouvons donc dans une situation très comparable à celle des cours supérieures nationales. Par ailleurs, les domaines du contentieux sont le reflet du développement des compétences de l'Union européenne. En 2015, sur les plus de 700 affaires qui sont entrées à la Cour de justice, on ne compte qu'une 60aine d'affaires qui concernent les différentes libertés fondamentales du marché commun, la liberté d'établissement, la liberté de circulation des travailleurs. Mais, en revanche, presque 100 affaires qui concernent les droits de propriété intellectuelle et industrielle, plus de 50 affaires qui concernent l'espace de liberté, de sécurité et de justice, et notamment le droit pénal, 50 affaires environ qui concernent la fiscalité, une 50aine d'affaires qui concernent les questions d'environnement. Ces quelques exemples permettent d'illustrer ce déplacement du centre de gravité de la jurisprudence européenne qui illustre en fin de compte tout simplement ce que sont les nouveaux horizons du droit communautaire qu'on appelle aujourd'hui le droit de l'Union. Prenons quelques domaines topiques. Le développement des technologies de l'information, les grandes questions de société et l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Les technologies de l'information donnent lieu à des litiges qui mettent toujours en cause la question de l'équilibre entre les droits et les libertés. Dans un arrêt remarqué de 2010, Völker et Markus Schäcke, la Cour a déclaré invalide, c'est-à-dire illégale, les dispositions de règlement sur le financement de la politique agricole commune qui obligeait à publier de manière complète les données concernant les bénéficiaires des aides agricoles, avec leur nom, l'endroit où ils habitaient, les montants perçus au titre d'aide. Et la Cour a considéré que si un tel système pouvait être envisagé pour les personnes morales, pour les sociétés, une telle publication était disproportionnée pour les personnes physiques et qu'elle ne réalisait pas la pondération équilibrée des intérêts en cause. La Cour a franchi un grand pas dans la protection des libertés publiques en déclarant purement et simplement illégale la fameuse directive de 2006 qui prévoyait, vous vous en souvenez sans doute, l'obligation pour les opérateurs de communication électronique de conserver les données relatives aux communications pendant un délai qui pouvait aller de 6 mois à 2 ans, et cela dans le but d'assurer la sécurité publique et la lutte contre la criminalité pour que les autorités policières nationales puissent y accéder. La Cour a évidemment reconnu que cela répondait à un intérêt général, mais elle a considéré que la conservation des données avait été conçue de manière tellement large et avec un tel manque de garantie qu'elle ne satisfaisait pas au principe de proportionnalité. C'est le fameux arrêt Digital Rights de 2014. Dans ce même arrêt, la Cour a précisé son contrôle en matière de liberté publique en disant tout simplement que lorsque les droits fondamentaux sont en cause, il lui appartient d'exercer un contrôle complet sur les choix législatifs faits par le législateur de l'Union. Autrement dit, dès qu'on est en matière de droits fondamentaux, le contrôle de la Cour sur le législateur communautaire est un contrôle complet. Quelques semaines plus tard, a été rendu l'arrêt phare de ces dernières années, l'arrêt dans l'affaire Google Spain. Cette décision a porté un coup d'arrêt à la liberté quasi absolue des géants du net. La Cour a décidé qu'un moteur de recherche doit faire disparaître des résultats, les informations qui seraient de nature à porter atteinte à la vie privée. Voilà la contradiction apportée à la fameuse affirmation de Mark Zuckerberg, selon laquelle, à notre époque, la vie privée n'existe plus. Bien plus, le 6 octobre dernier a été rendu l'arrêt Schrems, qui est un coup de tonnerre dans l'univers du net. Dans cet arrêt, la Cour a déclaré que les conditions des transferts de données d'Europe vers les États-Unis, qui avaient été définies par la Commission européenne en 2000, était incompatible avec le droit de l'Union et en particulier la Charte des droits fondamentaux. L'affaire avait son origine dans un recours formé par un citoyen autrichien, client de Facebook, qui s'était opposé à ce que ses données personnelles soient envoyées sur des serveurs aux États-Unis, au motif que les autorités américaines y auraient accès, comme le prouvaient les déclarations d'Edward Snowden sur les pratiques de la NSA et du FBI. Les questions de société, maintenant, elles occupent une place de plus en plus grande. Ainsi, la Cour a-t-elle dû s'interroger sur la notion d'embryon humain au sens de la directive de 1998 sur la protection des inventions biologiques. Pour vous donner une idée des questions qui sont posées dans ces matières, les difficultés de telles affaires apparaissent clairement. Dans un premier temps, la Cour a considéré qu'un ovule non fécondé, induit à se diviser par voie de parthénogenèse, avait la capacité de se développer en un être humain et que l'invention qu'on voulait breveter, l'activation de cette parthénogenèse, ne pouvait par conséquent pas être brevetée. Quelques années plus tard, la Cour a été ressaisie de la même question, à la lumière de connaissances scientifiques différentes, et elle a ouvert la porte à une possibilité de breveter de telles inventions, à la condition que devant le juge national, il soit établi que le résultat de l'activation, c'est-à-dire le parthénote, n'est pas la capacité de se développer en un être humain. Quelques mots de la citoyenneté européenne et de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. La citoyenneté européenne et l'espace de liberté, de sécurité et de justice sont devenus le cœur de métier de la Cour. Dès que la citoyenneté est en jeu, la Cour est compétente. Elle dit qu'il s'agit du statut fondamental des ressortissants des États membres. Il s'oppose à toute mesure nationale qui aurait pour effet de priver un citoyen de l'Union de la jouissance effective des droits qui en dérivent. Ainsi, par exemple, privé de droit de séjour dans l'Union européenne, un ressortissant d'État tiers, non membre donc dans l'Union, dont les enfants en bas âge ont la citoyenneté de l'Union, priverait ses enfants de leur droit de résider dans l'Union. Dans cette mesure, doit être accordé un droit de séjour et la possibilité de travailler aux parents. La Cour a dû tracer les limites entre le droit de l'Union et le droit international dans un cas assez extraordinaire, celui d'un chef d'État qui voulait absolument se rendre dans un autre État membre. Il s'agissait du président de la Hongrie, qui entendait participer à l'inauguration d'une statue de Saint-Étienne en Slovaquie, dans une région où résident des minorités hongroises, ce dont, comme vous pouvez l'imaginer, les autorités slovaques ne voulaient pas entendre parler. Le président de la Hongrie est allé jusqu'à la frontière, où on lui a signifié l'interdiction d'entrer. La Hongrie a demandé à la Commission de lancer une procédure de manquement contre la Slovaquie, ce qu'elle a refusé de faire, et c'est donc la Hongrie elle-même qui a saisi la Cour d'un recours en manquement contre la Slovaquie. Et la Hongrie a été jusqu'à invoquer la directive sur les droits des citoyens de l'Union de circuler et de séjourner sur les territoires des États membres. La Cour, par un arrêt de grande chambre, a répondu que le statut des chefs d'État relevait de règles coutumières du droit international et non des règles de circulation applicables à tout citoyen, et que donc le droit de l'Union n'imposait nullement à la Slovaquie de laisser entrer sur son territoire le président de la Hongrie. Année après année se construit l'espace de liberté, de sécurité et de justice. À ce titre, la Cour doit se prononcer régulièrement sur des questions de droit pénal, comme celles qui concernent le mandat d'arrêt européen, sur des questions de droit civil, sur des questions d'immigration, sur des questions d'asile. Sans entrer nullement dans le détail, je voudrais tout de même relever devant vous qu'il s'agit là de domaines sensibles qui touchent aux attributions régaliennes des États membres, aux libertés et à la Convention européenne des droits de l'homme. Passons à un autre domaine, économie politique, statistiques et finances. La crise des dettes souveraines a amené les États membres à mettre en place des instruments de gouvernance économique. Ils l'ont fait par des actes de l'Union, mais aussi par des traités parallèles aux traités de l'Union. Celui qui a institué, vous vous en souvenez, le mécanisme européen de stabilité, et puis le traité sur la stabilité, la gouvernance, la coordination et la gouvernance, dont les suites ont d'ailleurs été portées devant le Conseil constitutionnel français. La Cour a été interrogée par la Suprême Cour d'Irlande sur la validité même de la création du mécanisme européen de stabilité. L'arrêt de la Cour a été rendu en plénière. Pour la première fois, celle-ci a été amenée à contrôler une révision du traité. Et elle a dû se prononcer sur la compatibilité du mécanisme européen de stabilité avec les dispositions du traité sur la politique économique et monétaire. La Cour a exercé un contrôle sur la décision du Conseil européen de réviser le traité. Elle a dit qu'il ne lui appartenait pas de contrôler le sens de la révision, parce qu'il s'agissait là d'un choix du constituant, mais qu'il lui appartenait de contrôler si la procédure de révision simplifiée et le domaine de compétence de la procédure de révision simplifiée avaient bien été respectés. Ensuite, elle a réfuté un à un les arguments sur l'incompatibilité du mécanisme européen de stabilité et en particulier celui qui consistait à dire que ce mécanisme aurait réalisé un contournement de l'interdiction de renflouement des États membres qui découle du traité de Maastricht. C'est ensuite le Bundesverfassungsgericht, la Cour constitutionnelle allemande, qui, pour la première fois dans l'histoire de l'Union, a saisi la Cour d'une question préjudicielle. Elle l'a d'ailleurs bien choisie. Elle a tout simplement demandé si la décision du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne d'acheter des titres d'État sans limite de montant était compatible avec le traité. C'était la décision qui avait été annoncée très tôt par le président Mario Draghi et qui avait donné lieu, vous vous souvenez, à discussion. Fort habilement, et comme à son habitude, la Cour constitutionnelle allemande avait laissé entendre que pour elle, ça n'était pas compatible et qu'il s'agissait là d'un dépassement manifeste de ses compétences par l'Union.
ce à quoi elle-même devrait s'opposer à cause de la loi fondamentale allemande. Mais toutefois, qu'il pourrait en aller autrement si la Cour de justice posait de très strictes conditions. Ça revenait évidemment à dicter à la Cour sa copie. L'arrêt a été rendu le 16 juin dernier dans une affaire, cette affaire qui s'appelle l'affaire Gauweiler, du nom d'un des requérants devant la Cour constitutionnelle allemande. Elle a fait grand bruit, puisqu'était en cause le programme d'opération monétaire sur titre, donc cet élément essentiel de stabilité du système monétaire européen. Et la Cour a considéré que la décision prise par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne était compatible avec le traité, dès lors que la Banque centrale européenne avait annoncé qu'elle n'achèterait pas directement de titres d'État, mais qu'elle les achèterait sur le marché secondaire après qu'un prix se serait formé. Je n'aborde pas les questions de fiscalité, parce que ça nous mènerait trop loin, mais je ne fais que les mentionner en passant. Il s'agit là également d'un domaine dans lequel la jurisprudence de la Cour joue un grand rôle. Philosophie. Une des grandes questions posées aux juristes ces dernières années est celle des rapports de système juridique. Les rapports de système entre le droit interne et le droit international public, c'est le titre d'un cours célèbre donné en 1926 par Kelsen, fallait bien que je le mentionne, monsieur le professeur Delvolvé, en passant, à l'Académie de droit international de La Haye. Peut-être un Kelsen ne serait-il pas trop aujourd'hui pour nous aider à réfléchir sur les rapports de système, parce qu'il s'agit plus seulement, pour ce qui nous concerne, des rapports entre le droit national et le droit communautaire ou droit de l'Union, mais des rapports des différents systèmes internationaux entre eux et avec les systèmes nationaux. La clé du problème qui avait été donnée par le grand juriste autrichien à l'époque est, j'en suis persuadé, toujours valable. Tout simplement parce que c'est du bon sens. Si on veut faire vivre ensemble des systèmes distincts sans les fusionner, il faut soit les subordonner l'un à l'autre, soit les coordonner. Malheureusement, ni l'une ni l'autre option n'ont été clairement choisies pour ce qui est de l'Europe. Mais je laisse ici la théorie dont vous savez que, selon Paul Morand, les théoriciens ne vivent pas et les créateurs risquent de mourir, et j'aborderai simplement et très rapidement les trois points d'actualité suivants. Les rapports de la Cour avec les cours constitutionnelles, ses rapports avec le Conseil de l'Europe et ses relations avec l'Organisation mondiale. Les relations avec les cours constitutionnelles et de manière générale les cours supérieurs des États membres, c'est-à-dire les cours qui donnent le « là », se sont banalisées. Et les rapports de la Cour de justice avec le Conseil d'État français sont à cet égard un exemple topique. Presque toutes les cours constitutionnelles des États membres ont saisi la Cour de justice. Les questions, certes, peuvent ne pas être dépourvues de toute malice, comme celle de la Cour constitutionnelle allemande dont je viens de vous parler. D'autres peuvent avoir des effets extrêmement positifs, comme le premier renvoi du Conseil constitutionnel français dans l'affaire Jérémy. Dans cette affaire, la Cour de cassation avait posé au Conseil constitutionnel la question de la constitutionnalité de l'absence de recours en cassation contre une décision d'une chambre de l'instruction d'une cour d'appel accordant l'extension d'un mandat d'arrêt européen. Le Conseil constitutionnel s'est demandé si la décision cadre sur le mandat d'arrêt européen, c'est-à-dire l'acte qui a fondé le mandat d'arrêt européen, ne s'y opposait pas, parce que cette décision cadre fixe un délai très court de 30 jours pour prendre la décision. Il a saisi de la question la Cour de justice. La Cour a adopté une position très souple. Elle a considéré que rien ne s'opposait à un recours en cassation suspensif, pourvu que la décision finale intervienne dans le maximum du délai prévu par la décision cadre, c'est-à-dire un délai total de 90 jours. Le Conseil constitutionnel a pu, dans ces conditions, juger que le droit à une protection juridictionnelle complète impliquait qu'un recours en cassation fût possible. Et ce dialogue des juges a donc abouti ici à un réel progrès du droit et, il faut le dire, a comblé une lacune qui provenait des conditions précipitées dans lesquelles on avait transposé la décision cadre dans le droit français. La Cour de justice a de manière générale conscience qu'il faut faire preuve de souplesse vis-à-vis des mécanismes constitutionnels nationaux. Et de ce point de vue, est très significatif l'arrêt qui a été rendu sur la question posée par la Cour de cassation française à propos de la compatibilité du système français de la question prioritaire de constitutionnalité avec le droit de l'Union. La Cour a admis, dans cette affaire rendue sur le renvoi de la Cour de cassation, après avoir pris d'ailleurs quelques distances par rapport à l'analyse que faisait la Cour de cassation du système français, que le juge national puisse, dans une certaine mesure, attendre avant de donner une solution définitive à une affaire dont il est saisi, alors qu'il y a toutes les apparences d'une incompatibilité de la loi nationale avec le droit communautaire, pour attendre que le Conseil constitutionnel se prononce et qu'ensuite le juge national en tire les conséquences. Dans ses rapports avec les cours constitutionnelles, la Cour de justice se montre très prudente, et c'est la raison pour laquelle, dans deux arrêts très remarqués de février 2013, elle a dit, à propos de la Charte des droits fondamentaux, que dans tous les cas où celle-ci pourrait être appliquée par les juridictions nationales, mais où il existe des standards nationaux de protection des libertés fondamentales qui peuvent jouer, le juge national peut se fonder sur son droit national et n'a pas besoin d'appliquer la Charte des droits fondamentaux. Les rapports de la Cour de justice et du Conseil de l'Europe. Juste un mot, très rapide. Il s'agit là, bien sûr, avant tout de la question de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme. Cette adhésion est prévue par le traité de Lisbonne, dans son article 6. Toutefois, elle est soumise par le même traité, plus exactement par son protocole numéro 8, mais qui a la même valeur, à un certain nombre de conditions et d'exigences tout à fait précises. La Commission avait négocié avec le Conseil de l'Europe et les autres États partis à la Convention européenne des droits de l'homme un accord d'adhésion. Cet accord d'adhésion a été soumis pour avis à la Cour de justice de l'Union européenne, selon un mécanisme qui est tout à fait comparable à l'article 54 de la Constitution française, qui prévoit la possibilité de demander au Conseil constitutionnel de prendre position sur la constitutionnalité d'un engagement international, et la Cour de justice a considéré qu'en l'état actuel, cet accord et ces instruments d'adhésion ne satisfaisaient pas aux conditions, aux obligations prévues par le protocole sur l'adhésion. Alors, est-ce que ça rend l'adhésion impossible? Personnellement, je ne le pense pas, mais en tout état de cause, ça va obliger à prendre en considération un certain nombre de questions qui existent réellement et qui ont été volontairement par les États, par certains, volontairement par certains États, involontairement par d'autres, laissées de côté. Je termine juste d'un mot sur les rapports de la Cour avec l'Organisation mondiale en me limitant à un seul exemple, celui du contrôle juridictionnel des mesures dites restrictives qui peuvent être prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme notamment et les crimes internationaux. Vous savez, on prend des décisions gelant les comptes en banque de certaines institutions, de certaines sociétés ou de certains individus. Dans ce domaine, la plupart des mesures ne sont que la mise en œuvre de décisions prises par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies par l'intermédiaire de son comité des sanctions. Et ensuite, il faut les mettre en œuvre dans le droit de l'Union européenne. La question s'est posée de savoir s'il y avait un contrôle sur la légalité de telles mesures, dès lors qu'elles avaient leur origine dans une décision du Conseil de sécurité qui normalement s'impose à tout le monde. Cela n'a pas arrêté la Cour de justice et celle-ci a considéré que les obligations qui dérivaient pour les États de la charte de l'ONU ne la libéraient pas, elle, du contrôle des décisions individuelles par rapport aux droits communautaires et en particulier du contrôle des droits fondamentaux, du respect des droits fondamentaux. Et le contrôle est d'ailleurs un contrôle complet. Vous avez une section générale, ce sera ma conclusion. Comme l'a écrit l'un d'entre vous dans un petit livre substantiel consacré à l'État, cette juridiction est sans équivalent dans l'ordre international. Alors, on m'a souvent demandé si elle n'avait pas une jurisprudence politique. Ma réponse est qu'elle applique les traités dans leurs lettres comme dans leur esprit. La lettre des traités est beaucoup plus univoque qu'on le dit. Leur esprit est clair. Depuis l'origine, l'aventure communautaire a pour but une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe. La Cour est une institution originale, continentale, adaptée à ce qu'est l'Union européenne, qui est bien plus qu'une organisation internationale, sans être tout à fait une fédération et encore moins un État. 2 ans avant sa mort, Jacques Barrot, que beaucoup d'entre vous connaissaient, était venu à l'université de Luxembourg parler de l'Europe dans la crise économique. Après avoir fait l'inventaire de tout ce qui allait mal, c'était un inventaire assez substantiel, il s'est écrié « Mais heureusement, il y a la Cour de justice ». Et je peux vous dire, c'est vrai. Et heureusement, il y a la Cour de justice. C'est que, dans une Europe qui a connu et connaît encore bien des crises et des secousses, la Cour apparaît comme un élément stable. Installée sur l'un des plateaux de la ville de Luxembourg, loin des centres bruxellois de décision, elle joue dans un splendide isolement le rôle de gardien du temple communautaire, fidèle à ses buts et à ses valeurs, ni plus ni moins. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, ce que je voulais vous dire de la Cour de justice. Et pour terminer, je voudrais vous remercier très sincèrement de l'honneur que vous m'avez fait de me permettre d'intervenir devant vous.